Irish Coffee.
Ah oui, c'est pour faire passer tout ça, on a mangé. Aujourd'hui, nos invités, c'est Morgane du Gyrophare et Sarah Jaffar. Salut à toutes les deux.
Bonjour. Salut.
Bienvenue au micro de Radio Campus, dans Café Campus. Aujourd'hui, on va parler de la question du genre, de sexualité, d'une formation que vous proposez. Donc, c'est une formation de sensibilisation contre l'homophobie et la transphobie. On va attaquer tout ça, mais avant toute chose, Morgane et Sarah, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Allez, Sarah, on commence par toi.
Bonjour, moi je m'appelle Sarah Jaffar. Du coup, mes pronoms c'est il et elle et mes accords neutres et masculins. J'ai validé en juin 2022 un master études sur le genre à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et là, je suis dans les démarches pour essayer de rentrer en doctorat de sociologie à l'Université de Bordeaux. Dans la vie, j'aime les études trans, les études féministes et le roller derby. Voilà.
Comme ça, c'est large.
Moi, c'est Morgane Kurt, mes pronoms, c'est elle et à elle, accord féminin et neutre. Et je fais partie de l'équipe de direction du Gyrophare. Et peut-être le Gyrophare...
Et bien justement, ouais. C'était ma prochaine question. Incroyable. Morgane, ça fait toujours du bien de rappeler ce que c'est que le Gyrophare.
Donc le Gyrophare, c'est le centre LGBTI+, de Bordeaux et de Gironde. Parfois, il y a le sous-titre Nouvelle-Aquitaine, mais ça reste un énorme territoire. Nous, ce qu'on fait, c'est d'abord de la convivialité, c'est-à-dire qu'on accueille, on essaie de rompre l'isolement, mais on fait aussi de l'accompagnement sur donc, toutes les questions liées à l'acronyme et à l'orientation sexuelle, au genre, au questionnement, au coming out. On fait aussi de l'accompagnement de demandeuses d'asile qui ont fui leur pays du fait de leur orientation sexuelle. On organise aussi le Festival des Fiertés et la Marche des Fiertés. Et on fait aussi de la prévention en santé sexuelle, voilà. Et on travaille sur les archives LGBT également.
Donc énormément d'activités hein, pour l'association Le Gyrophare. Donc par exemple, si on se pose des questions sur son genre, sur sa sexualité, on peut venir vous voir pour en discuter, que l'on soit jeune, moins jeune ou parent aussi avec ses enfants, ça arrive.
Exactement, l'idée c'est de venir au Giro avec ses questionnements et ensuite nous on va justement réorienter vers les assos concernés. Et on a des ateliers dédiés. Par exemple, on a l'atelier parents-enfants, donc pour les enfants qui sont en questionnement sur leur genre, et justement pour permettre aux parents d'échanger sur la réalité de la situation.
Et tu as dit que vous étiez en lien aussi avec des demandeurs d'asile, donc ça veut dire que vous avez aussi vous collaborez avec la Cour nationale du droit d'asile ?
Alors. Collaborer, c'est peut-être un grand mot,
enfin, oui, mais non, en tout cas, c'est pas le mot que je voulais dire. T'as compris.
Mais oui, on travaille avec toutes les actrices qui sont autour de ces sujets. Donc nous, on s'occupe vraiment de l'aide au récit, parce que c'est des personnes qui ont fui leur pays, où c'était pénalisé soit par la justice, et dans 11 pays encore dans le monde par la peine de mort. Et en fait, c'est des gens qui ont toujours vécu dans un pays LGBT-phobe et qui ont du mal à mettre en mots ces réalités. Et l'idée, en fait, dans leur demande, c'est de prouver leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Et prouver l'intime, c'est hyper compliqué, surtout quand on n'a pas les mêmes éléments de langage. Donc on va aider là-dessus.
Sarah, donc, tu nous l'as dit, tu es en Master 2, dans le Master Études sur le genre, car c'est une problématique donc, qui te tient à cœur. Et tu adores faire des recherches dessus. Est-ce que tu peux nous présenter plus en détail ce Master ?
Oui, bien sûr. Donc, le master études sur le genre, c'est un master qui est à l'Université Bordeaux-Montaigne. C'est un master pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on peut y venir en ayant des colorations disciplinaires différentes. Donc, on peut venir pour travailler des questions de genre en littérature, en études culturelles, en sociologie et dans toutes les autres disciplines. C'est un master recherche donc, qui n'est pas professionnalisant, mais du coup qui ouvre à des carrières dans la recherche sur le genre et les sexualités de manière générale.
Et toi, c'est sous l'œil de quelle discipline que tu étudies ces questions-là ?
Du coup, la sociologie de la santé, des mouvements sociaux et les études trans, du coup.
Donc, si tu es en M2, tu dois faire le fameux mémoire. Là, j'imagine que c'est la dernière ligne droite.
Alors, j'ai validé mon mémoire, j'ai fini mon master en juin, après trois longues années, très riches en rebondissements. Donc, le mémoire est derrière moi et j'ai d'autres projets pour la suite.
Ah, super. Comme quoi, par exemple ?
Du coup, une thèse en sociologie qui serait un prolongement du coup, de mon travail de mémoire que j'ai effectué ces trois dernières années.
D'accord. Ah oui, donc tu as fini le master, tu vas devenir doctorante.
Exactement.
Ok, je crois qu'il y a des infos sur le site de Bordeaux-Montaigne qui ne sont pas très à jour. Ah. C'est pas grave, mea culpa. Et mea culpa à eux aussi. ok, tu as déjà une idée de ta thèse ? J'imagine.
Oui, exactement.
Un sujet, ouais.
Donc, pour mon master de... enfin, pour mon mémoire de master, j'ai travaillé sur les pratiques des personnes trans qui suivent un traitement hormonal par injection. Leurs difficultés ou leurs besoins vis-à-vis du matériel, de l'acte d'injection, des informations et de l'éducation thérapeutique relative à l'injection. L'injection d'hormones, je ne sais pas si je l'ai précisé. Parce que j'étais en stage avec une association qui s'appelle l'association SAFE, qui est une association de réduction des risques parisienne, qui travaille à l'accueil de ce public. Et là, du coup, pour ma thèse, l'idée, c'est d'explorer les manières et les raisons pour lesquelles la communauté trans s'organise autour de l'accès à l'acte d'injection. Pourquoi elle s'organise autour de cette question-là, comment elle s'organise autour de cette question-là et comment les individus entre elles et eux se transmettent les connaissances relatives à l'acte d'injection dans un contexte démédicalisé.
D'accord, donc toi c'est vraiment ouais, le sujet du parcours de transition sur lequel tu fais tes recherches.
Oui voilà, enfin, l'acte d'injection, tout ce qui va être les traitements hormonaux, l'éducation thérapeutique entre pairs, ce genre de choses.
Alors justement, parce qu'il y a énormément d'idées reçues là-dessus, de désinformations sur ce sujet. Est-ce qu'on peut faire le point donc, sur ce parcours, sur les injections donc, et le parcours de transition donc, que ce soit dans le domaine médical, social ou administratif, parce que qu'il s'agisse de personnes concernées ou non, ce qui en ressort, c'est que ça, c'est accessible, c'est facile et c'est pas très contraignant. En gros, il suffit de faire une petite demande et pouf, on fait une transition. C'est pas vrai, évidemment.
Non, malheureusement. On aimerait bien que ce soit comme ça, mais malheureusement, non. Je sais pas exactement par où commencer, mais du coup, il y a plusieurs... Donc déjà, c'est important de le dire que toutes les personnes trans et non-binaires ne font pas de transition médicale, sociale, administrative. Il y a des trajectoires et des parcours qui sont très différents. Donc comme je l'ai dit, du coup, il y a trois types de parcours. Le parcours médical, le parcours social et le parcours administratif. Le parcours médical, il consiste en faire des démarches pour obtenir des changements, souvent des changements des caractères sexuels secondaires, donc comme la répartition des graisses, obtenir ou ne plus avoir certains éléments sur son corps, ce genre de choses. Il peut se faire du coup dans le public, c'est-à-dire au sein de l'hôpital public, au sein d'équipes hospitalières, ou bien en libéral, en consultant aux besoins et à la volonté des praticiens et praticiennes qui peuvent rentrer dans ce type de parcours. Donc par exemple des endocrinologues, des chirurgiens et chirurgiennes, des médecins généralistes, des kinés, etc. Et donc ce qu'il faut savoir par rapport à ce parcours de transition médicale, c'est qu'il est très réglementé et que, si je puis dire, et qu'il y a de nombreux freins. Donc dans les équipes hospitalières, il y a une tradition de psychiatrisation des identités trans. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, la prise en charge médicale des identités trans s'est construite sur le fait que c'était une affection psychiatrique, donc une maladie, et qu'on était capable de déterminer quels étaient les vrais des faux trans, c'est-à-dire quelles étaient les personnes à qui on pouvait ou ne pouvait pas accorder une transition médicale et sociale. Et donc, cette tradition se traduit à l'heure actuelle par un diagnostic psychiatrique qui va être préalable à tout élément de transition médicale. Pour parler plus clairement, en gros, si vous voulez une chirurgie, si vous avez besoin d'une chirurgie ou d'une prise d'hormones, avant ça, on va vous obliger à suivre un suivi psychiatrique par un professionnel ou une professionnelle dont l'objectif va être de voir si vous êtes vraiment trans et si votre demande persiste dans le temps. Comme vous pouvez l'imaginer, ça pose beaucoup de soucis aux personnes concernées, parce que déjà, ça fait que le parcours il est très long, ça les laisse face à leurs problèmes quotidiens, face à leurs souffrances quotidiennes. Donc c'est très difficile à ce niveau-là. Et il y a certaines personnes qui malheureusement n'ont pas le profil attendu par ces professionnels et donc ne peuvent pas avoir accès en fait, aux éléments de transition médicale auxquels elles auraient besoin. Donc ça, c'est la première chose. On retrouve aussi cette psychiatrisation dans les parcours privés, donc auprès des professionnels libéraux, qui vont exiger une attestation, c'est-à-dire un papier signé d'un psychiatre qui dit que globalement vous êtes bien trans, alors qu'il n'y a aucune loi qui l'exige. Donc ça, c'est une pratique qui se fait alors qu'il n'y a aucun cadre légal qui la justifie. Et ensuite, il y a énormément de délais, surtout dans le parcours public, mais aussi dans le privé. Il y a des praticiens qui, en fait, font des refus de soins, pur et simple, c'est-à-dire qu'ils vont dire des choses comme « Non, moi, je ne suis pas intéressée pour recevoir des personnes trans. Moi, je préfère prendre en charge d'autres personnes qu'elles trouveront plus légitimes, genre d'autres pathologies ou d'autres affections. » Enfin bref, je pense que c'est clair, enfin, ce que j'essaie de transmettre, à savoir que c'est un parcours qui est semé d'embûches, surtout quand il y a d'autres éléments sociaux, économiques qui s'y mêlent, donc des difficultés financières, parce que c'est aussi très cher de faire une transition médicale. Dans le privé, les dépassements d'honoraires qui ne sont pas pris en charge, jamais pris en charge, peuvent s'élever à plusieurs milliers d'euros pour les opérations. Donc, comme vous pouvez imaginer, c'est très difficile à réunir une telle somme, surtout quand on est étudiant, surtout quand on est une personne peut-être racisée qui va subir des discriminations à l'emploi, etc.
Merci beaucoup, Sarah. De toute façon, la question, elle est très compliquée. Mmh. Mais voilà, en tout cas, sur ton point de vue, ce serait plutôt alléger la prise en charge psychiatrique, ou en tout cas tout ce qui est toutes ces démarches en fait, qui sont assez lourdes.
Alors, même plus qu'alléger, retirer, supprimer purement et simplement l'évaluation psychiatrique. En fait, au lieu d'être sur un paradigme d'évaluation psychiatrique, on pourrait passer sur un paradigme du consentement éclairé, comme on fait en fait dans tous les autres soins du monde, enfin la plupart des autres soins, à savoir exposer à la personne les enjeux qui vont avec le soin qu'on va lui donner, lui dire les points positifs, les points négatifs, les potentiels effets secondaires qui peuvent arriver et lui demander si elle est d'accord pour avoir ce soin. Et si elle dit oui, lui donner le soin et voilà.
Merci. Alors on va continuer à parler du genre. De toute façon, c'est le sujet du jour. Et cette question, malheureusement, on a l'impression que c'est encore et toujours, voire toujours plus nébuleux, un peu pour tout le monde. Et face à cette incompréhension, les avis se tranchent plutôt que de s'ouvrir, d'où l'intérêt de faire des recherches dessus. Il suffit de voir la manière dont la question est abordée sur les médias, dont sur certaines chaînes, on ne va pas en parler évidemment. Mais aujourd'hui, comment on fait pour bien s'informer et bien comprendre la question et les enjeux? Vers quoi il faut se tourner?
Alors, l'idée, c'est, et ça marche pour toutes les questions, se tourner vers les personnes concernées. Et quand je dis personnes concernées, c'est pas nécessairement la personne trans que vous connaissez dans le monde, lui poser toutes les questions. Ce n'est pas à cette personne d'avoir la charge mentale, mais il existe des assos, il existe des sites faits par les personnes trans. Donc encore une fois, réfléchir à où on se documente, parce que effectivement, si on tape juste trans sur Google, on va avoir à boire et à manger.
Voilà, ou si on regarde CNews par exemple.
Oui, non, de toute façon, ne regardez pas CNews pour aucun sujet.
De toute façon,
c'est une mauvaise idée. À part si vous êtes de droite.
Sauf mais... si vous avez fait une enquête sur les discours transphobes, peut-être.
Exactement.
Par exemple.
Vous savez où aller les chercher. Mais effectivement, s'orienter en fait vers les personnes désignées. Donc aussi pas hésiter à demander aux différents centres LGBT dans les villes dédiées. Nous, on fait en sorte de justement rediriger, ou même on donne des premières informations, mais on redirige toujours vers les assos concernés. Et c'est la clé, selon moi.
Oui, je suis d'accord, que ce soit les assos, mais aussi sur les réseaux sociaux, essayer d'identifier du coup des pages, que ce soit sur Instagram, Twitter, Facebook, sur YouTube aussi. Il y a un énorme travail de vulgarisation, de pédagogie qui est fait par les personnes concernées, par les collectifs de personnes concernées. Donc je pense que c'est très important de valoriser ces voies-là.
D'accord, merci de nous l'avoir précisé. Sarah, je reviens à toi parce que tu as fait un stage à la mission Égalité de Bordeaux-Montagne. Alors, c'est quoi cette mission en fait?
Alors, la mission Égalité, c'est une mission qui a été mise en place en 2018, je crois, qui fait suite à une ordonnance étatique, qui a en fait a pour but de veiller au respect de l'égalité entre les genres, aux questions relatives à l'inclusion et à la diversité à l'université. Dans cette mission, il y a une chargée de mission qui s'appelle Viviane Albenga et qui, depuis 2018, met en place différentes actions sur le campus de l'Université Bordeaux-Montaigne pour veiller à l'inclusion des publics marginalisés, notamment sur l'axe des violences sexistes et sexuelles, sur l'axe de l'égalité hommes-femmes, sur l'axe de l'inclusion des personnes trans et LGBTQ+, de manière générale. Voilà.
Bah, très bien, c'est très clair. Est-ce qu'on pourrait quand même aussi définir les violences de genre, discrimination de genre, ça, on se fait une idée, mais les violences de genre, qu'est-ce que c'est en fait?
Moi, quand on me dit violences de genre, je pense à soit les violences misogynes, du coup,
d'accord,
mais aussi les violences transphobes, bien évidemment. Donc, les violences transphobes, elles ont un faisceau qui est assez large. Ça peut aller du coup du mégenrage, c'est-à-dire le fait d'appeler une personne trans par les mauvais pronoms, du dead naming ou mauvais nommage, c'est-à-dire le fait de l'appeler par son ancien prénom, le prénom qui lui a été donné à la naissance et qu'elle n'utilise plus à l'heure actuelle. Ça peut aller jusqu'à des outings, c'est-à-dire le fait de révéler, ça marche aussi pour les personnes gays, lesbiennes et bisexuelles, révéler le fait qu'elles sont trans à des tierces personnes sans leur accord. Et puis ça peut aller par tout le panel d'agressions qu'on peut imaginer, que ce soit physique, verbal, le harcèlement, les violences sexuelles, caractérisées du coup sous prétexte que la personne est trans.
Très bien, donc voilà, ça rejoint la mission égalité de Bordeaux-Montaigne. Donc justement, on va y venir à la formation que vous proposez, mais cette formation, elle est en lien avec une enquête qui est en cours.
Non, qui est terminée.
Qui est terminée aussi, décidément, il va falloir actualiser ce site internet.
Oups.
Bordeaux-Montaigne, si vous nous écoutez. Donc une enquête qui est terminée. Est-ce que vous pouvez nous la présenter?
Oui.
Morgane et Sarah.
Alors moi, du coup, j'ai été mon stage à la mission égalité qui s'est déroulé en 2022 était le but en fait, enfin l'objet de cette enquête. Non, j'ai fait ce stage pour porter cette enquête. Donc c'était une enquête à destination des personnes trans et ou non binaires qui étudiaient à l'Université Bordeaux-Montaigne, dont le but était, il y avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était de faire un diagnostic du dispositif d'utilisation du prénom et de la civilité d'usage. Donc en fait, ce dispositif-là permet l'utilisation du prénom et de la civilité d'usage pour les personnes trans qui en font la demande sur des documents internes au fonctionnement de l'université, comme par exemple la carte étudiante, les listes d'appels, etc. Le deuxième objectif, c'était de quantifier les violences transphobes à l'Université Bordeaux-Montaigne, qu'elles soient vécues ou observées. Et le troisième objectif, c'était de faire un diagnostic de la qualité de vie des étudiants et étudiantes trans et ou non binaires à l'université. Donc cette enquête, elle s'est déroulée du 8 au 28 février, donc sur un mois, et elle a pris la forme d'un questionnaire quantitatif et qualitatif qui a été diffusé aux étudiants et étudiantes via les réseaux sociaux, les listes mail internes à l'université, etc. Et du coup, on a eu des résultats.
Alors qu'est-ce qu'ils disent, ces résultats, justement?
Alors, ils disent beaucoup de choses, et globalement, malheureusement, ils dressent un portrait plutôt, je ne vais pas dire alarmant, mais en tout cas préoccupant. Donc les résultats, alors on a eu 144 personnes concernées qui ont répondu à l'enquête, donc 144 personnes trans et ou non binaires. À noter qu'on a eu aussi 18 soumissions qui étaient ouvertement haineuses ou transphobes,
oui,
qui elles n'ont pas été incluses dans les résultats, bien évidemment, elles ont été mis à côté, mais c'était important quand même de le noter.
Il y en a qui prennent le temps de répondre à l'enquête juste pour ça en fait.
Voilà, exactement. Donc ça dit quand même des choses sur le climat actuel oui, à Bordeaux et national de manière générale sur ces questions-là, je pense. Donc au niveau du dispositif de changement de prénom, je vais passer assez rapidement. Globalement, il y a une personne sur trois qui l'avait sollicité, et il y a 20 autres pourcents qui auraient aimé le solliciter mais qui n'ont pas pu ou qui ne s'en sont pas senti la possibilité. Pour des raisons de légitimité personnelle, pour des raisons de crainte de la transphobie administrative notamment. Au niveau des violences vécues ou observées, on a 63% des personnes qui ont répondu qui ont été victimes d'au moins une violence transphobe, et 59% des personnes interrogées qui ont observé une violence transphobe. Les violences les plus récurrentes, qu'elles soient observées ou vécues, étaient premièrement le mégenrage, qui concernait 86% des personnes ayant vécu une violence. Les remarques déplacées sur la transidentité, qui concernaient 50% des personnes ayant vécu une violence. Et le dead naming, qui concernait 43,4% des personnes ayant vécu une violence. ces violences, qu'il faut savoir, enfin ce que montre l'enquête en tout cas, c'est qu'elles se répètent plus d'une fois pour la quasi-totalité des répondants et répondantes, qu'elles sont en général perpétrées par des étudiants et étudiantes ou par des enseignants et enseignantes, et qu'elles ne sont quasiment jamais signalées à la cellule de veille de l'université. Donc quand je dis quasiment jamais signalées, c'est vraiment une ou deux personnes qui ont signalé des violences, alors que bah, comme on voit, il y en a énormément de violences qui sont vécues ou observées. Et en ce qui concerne la qualité de vie des étudiantes trans et ou non binaires, on a pu identifier des aspects de la vie étudiante qui posaient particulièrement problème aux personnes trans et ou non binaires. Premièrement, l'utilisation des sanitaires, puisque 30% d'entre elles disent qu'elles ne s'y sentent pas à l'aise. Ensuite, la relation aux enseignants et enseignantes, où 27% d'entre elles ne se disent pas à l'aise dans leurs échanges avec leurs enseignants et enseignantes. Ensuite, on a les activités sportives de la DAPS, où 26% des répondants et répondantes disent ne pas se sentir à l'aise, ce qui mène d'ailleurs à un évitement ou un retrait de ces activités. Donc on a 30% des personnes qui nous ont dit qu'elles avaient déjà abandonné l'idée de pratiquer une de ces activités sportives par crainte d'un climat transphobe. Et enfin, on a les soins à l'espace étudiant, malheureusement, où 23% des répondants et répondantes nous ont témoigné du fait qu'elles n'étaient pas à l'aise à l'idée de s'y faire soigner.
Ce malaise, il est dû à quoi ? C'est parce qu'il y a un climat transphobe ou une crainte que ce climat s'installe ?
Alors ça, c'est difficile à... Enfin, on ne peut pas y répondre avec les données qu'on a eues là avec l'enquête, mais si je devais faire des hypothèses, je pense que malheureusement, même en 2023, en France, il y a encore énormément de biais transphobes, de cisnormativité, en fait. La cisnormativité, c'est le fait que la société, à l'heure actuelle, est construite sur l'idée qu'il n'y a que des personnes cisgenres, c'est-à-dire non transgenres, qui y vivent et y interagissent. Donc du coup, ça fait que les institutions, le soin, l'éducation n'est pas du tout faite en pensant aux personnes trans et donc vont être par certains endroits inadaptées. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique.
Si, bien sûr, mais là, ça rejoint encore comment sont traités et... Les minorités, en fait, oui. Ça peut rejoindre toutes les autres minorités.
Exactement, voilà, exactement. Et aussi, ben, malheureusement, on a un climat transphobe national et international qui est en progression ces dernières années, puisqu'il y a une visibilité qui est grandissante des personnes trans, de la transidentité, en fait, qui amène, du coup, l'éveil, en fait, de mouvements anti-trans, de mouvements... gender critical qu'on appelle, qui vont du coup qui vont porter des revendications anti-trans, donc qui vont toucher les domaines du sport, les domaines de l'accès aux soins. On a eu ces derniers mois des incidents sur l'université Bordeaux-Montaigne de militants d'extrême droite. Enfin, voilà, tout ça, c'est
on l'a vu passer quand il y a eu notamment une conférence de la NUPES. Hein,
oui,
c'est
ça, exactement.
Tu l'as dit, donc ouais, il y a une levée des violences transphobes, etc. Parce qu'il y a un éveil, en fait, il y a une plus grande visibilité, la question est plus traitée qu'avant. Mmh. Est-ce que justement ça augure aussi une baisse après des violences ?
C'est difficile de...
Parce qu'il y a toujours des levées de boucliers de réactionnaires quand il y a une question comme ça qui est levée. Hein. Ça a été le cas pour toutes les questions des minorités, intégrer ces minorités, mieux les traiter, enfin les... intégrer complètement à la société. Est-ce que, selon toi, Sarah, pour la transidentité, le fait d'en parler, tout ça, ça va faire baisser ces violences ? C'est peut-être une question un peu large, je ne sais pas. C'est que je ne connais pas trop l'histoire de comment on traite les minorités. Enfin voilà, avec la hausse des violences, pour ensuite qu'elles baissent, voilà, il faudrait peut-être inviter des sociologues ou en parler plus en détail. Beaucoup de questions se posent de toute façon.
Moi, je peux qu'espérer que les choses iront dans le bon sens. En tout cas, les personnes trans et les associations de personnes concernées font un énorme travail à l'heure actuelle pour faire face aux violences, combler malheureusement les dysfonctionnements du droit, du système de santé... du fonctionnement du pays par rapport au droit trans de manière générale. En général, on dit que quand un modèle est menacé, c'est à ce moment-là qu'il essaie le plus de se réaffirmer. Donc on peut peut-être voir quelque chose de positif dans les dynamiques qui s'éveillent à l'heure actuelle de ce point de vue-là, mais en tant que personne concernée, j'avoue que je trouve que la situation est très préoccupante et du coup c'était aussi l'enjeu avec cette enquête-là à l'Université Bordeaux-Montaigne, c'était de donner des chiffres pour pouvoir alerter du coup les personnes en charge, que ce soit la direction, la présidence de l'Université Bordeaux-Montaigne, mais à un niveau national de manière plus générale sur les violences et les difficultés que vivent les étudiants et étudiantes trans, mais aussi les personnes trans de manière générale, afin que des mesures soient prises, que des choses soient faites. Malheureusement, dans les dernières années, on a vu des événements dramatiques se produire, donc des suicides d'étudiants trans, d'élèves trans et ou non binaires. C'est malheureux qu'on doive attendre que ce type de drame se produise pour avoir des réactions. Voilà, du coup on essaie d'alerter les pouvoirs publics pour que les choses aillent dans le bon sens.
Oui, c'est complètement d'actualité. Est-ce que c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines où un collégien s'est suicidé justement parce qu'il était soumis à des violences quotidiennes homophobes?
Oui, c'est ça.
C'est ça. Donc ces chiffres, tu l'as dit Sarah, ils servent à alerter, à informer et à former, puisque bientôt il y a une formation que vous proposez à Bordeaux-Montaigne. Morgane et Sarah, dites-nous tout sur cette formation.
Déjà bravo pour la transition. Et c'est une formation qu'on anime avec Sarah, qui va d'abord être sur une première partie menée par le Giro Phare sur les questions d'orientation sexuelle. Donc encore une fois, pour faire la différence entre les deux, l'orientation sexuelle c'est qui on aime, l'identité de genre c'est qui on est. Et du coup en fait on va reprendre l'acronyme, on va voir justement déjà mettre les bons mots au bon endroit, parce qu'encore une fois, le poids des mots est hyper important dans toutes les questions de discrimination, et d'une manière générale dans le monde, hein, mais on va reprendre ça, on va prendre des cas pratiques, on va aussi partir, en fait, l'idée c'est que ça ne soit pas trop descendant, partir des réalités vécues justement à l'université, donc par les participants, participantes, donc que ça soit de leurs proches, d'eux-mêmes, ou même des choses qu'elles auraient entendues. Et justement, voir aussi comment prendre en charge les personnes concernées, réagir à ce genre de violence, donner en fait des outils pour que tout le monde sorte de là mieux formé, donc avec une meilleure connaissance du sujet, mais aussi une capacité de réponse pour être une bonne alliée à la cause. Et ensuite, il y a un second temps, et je laisse Sarah l'exposer.
Oui, du coup, moi, je vais intervenir plus particulièrement sur la thématique de la transidentité. Donc, je vais faire un petit point sur les parcours pour que, comme le disait Morgane, tout le monde soit sur la même page. Ensuite, je vais parler des violences transphobes, plus spécifiquement de comment elles se manifestent, comment on les identifie et quoi faire, du coup, en réaction, surtout quand on est une personne qui n'est pas concernée, qui est alliée. Parce que je pense que c'est un peu l'idée avec cette formation de manière générale, c'est de former des personnes pour les rendre vectrice d'un changement, vectrice d'une aide dans des situations qui seraient problématiques et dures et violentes pour les personnes concernées elles-mêmes. Parce que à l'heure actuelle, la plupart du temps, les personnes concernées sont les seules sur lesquelles retombe le poids de la pédagogie, le poids de l'alerte et de la formation de leur vis-à-vis cisgenre qui ne sont pas formés. Donc voilà, l'idée c'est d'aider les personnes à être actives sur ces sujets-là et du coup d'infuser le changement collectivement grâce à cette formation.
Et lancer une transmission en fait, oui, voilà, d'acteur en acteur. Et justement, vous leur fournissez quels outils pour le faire ?
Déjà du savoir, quand on connaît...
Le principal.
C'est
hein.
Ça, vraiment, c'est la base des bases. Et... je sais que côté Giro, on a des outils pédagogiques, mais... En fait, ça va vraiment dépendre de la demande des personnes. Et l'idée, c'est de partir des cas, justement, pour pas que ça soit flou ou déconnecté de leur réalité. Et elle est là, la clé. Donc, je pense qu'on est deux personnes expertes sur nos sujets. Et du coup, qu'on a justement la souplesse pour s'adapter au public qui viendra.
Oui, et puis l'idée, c'est de partager des grilles de vision, de mettre les lunettes anti-transphobie, de prêter les lunettes à tout le monde et pour que chaque personne puisse voir, identifier d'une meilleure manière les situations violentes pour les personnes trans, pour les personnes LGBT, QIA+, de manière générale. Et je pense aussi que c'est super important de créer du lien, de savoir réorienter vers les structures qui existent à l'heure actuelle, que ce soit les structures d'écoute, comme la ligne d'écoute de SOS Homophobie, par exemple, qui va pouvoir recueillir et conseiller recueillir les témoignages et conseiller les personnes qui ont vécu des violences, mais aussi réorienter, du coup, enfin, donner les connaissances aux personnes non concernées pour qu'elles puissent réorienter leurs amis, leurs pères, leurs proches concernés vers la structure qui les aidera le mieux. Donc les associations, le tissu associatif qu'on a à Bordelais, des ressources en ligne, ce genre de choses.
J'aime beaucoup cette image de lunettes anti-homophobie et transphobie qu'on se passe. Concrètement, comment on participe à cette formation ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Comment ? Où ?
Alors oui, il faut s'inscrire. Donc on peut trouver l'information sur le site de l'Université Bordeaux-Montaigne, sur l'ENT, la partie étudiante, je crois. Il y a un nombre d'inscriptions limité. Malheureusement, je crois que la formation est presque pleine. Il y avait 20 places, puisque c'est une première édition, donc on a commencé petit, on va dire. Cette formation est à destination des étudiants, étudiantes et des associations étudiants, étudiantes. Donc on espère peut-être qu'elle se reproduira auprès de d'autres types de personnes.
Et peut-être même reproduire à l'université avec plus de places. Hein. En tout cas, les inscriptions sont faites vite. Vous savez à peu près ? Non, c'était juste pour savoir, hein, par curiosité.
J'ai aucune visibilité dessus, donc je ne pourrais dire.
Moi, je crois qu'au bout de la première semaine, il y avait déjà la moitié des places qui étaient prises. Après, il y avait une certaine anticipation de la part de certains acteurs, enfin de certains étudiants et étudiantes qui savaient déjà que la formation allait s'ouvrir, qui étaient déjà au courant, qui donc du coup se sont inscrites directement. Mais voilà, moi, je ne pensais pas que ça allait être nécessairement complet. Donc là, je suis...
C'est
tant mieux,
bonne nouvelle.
Positif, ouais.
Alors, je crois qu'il restait, il y avait marqué « Il reste une place » en lettres majuscules sur l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc gardez un œil dessus, inscrivez-vous si vous êtes intéressé. On le rappelle, c'est bien mardi 7 février. Oui. Et c'est une salle, alors attention, il faut le noter parce que c'est BRM 058.
Super, je ne sais même pas où c'est.
Ah mince, parce que c'était ma prochaine question. Où est-ce que ça se trouve dans l'université ? Parce que BRM 058, ça ne parle pas forcément.
J'avoue que là, je ne vais pas savoir.
Je ne viens à l'université que pour les formations et Radio Campus. Donc,
donc pour ça, il y a l'accueil de Bordeaux-Montaigne.
Voilà,
allez-y,
exact.
C'est sur le parvis. Vous ne pouvez pas le louper. C'est un petit Algeco, comme ça, tout mignon. Non, il n'est pas mignon, c'est un Algeco. Mais en tout cas, vous pouvez demander un plan où on vous indique où est-ce que c'est exactement. Voilà pour... avoir plus d'infos sur cette formation et s'y inscrire s'il reste des places, c'est sur le site de Bordeaux-Montaigne, on le trouve très facilement évidemment. Sarah et Morgane, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ?
Moi j'aimerais bien réussir à rentrer en thèse et puis de manière générale de la réussite dans le militantisme pour les droits des personnes trans, pour moi mais aussi pour tous les autres militants, militantes mise en mouvement des institutions qu'on a sur Bordeaux, donc de l'Université Bordeaux-Montaigne, des autres universités qui sont présentes à Bordeaux. Voilà, je pense.
C'est plus ou moins la même chose. Peut-être un peu plus large, les institutions françaises, la réponse, justement, qu'elle soit ministérielle, qui reste des déclarations pour le moment. J'attends justement le plan de la ministre Isabelle Rome qui sort contre les LGBTI-phobies en mai. J'attends de voir comment ça va être construit et ce qui va en sortir. Et du coup, je souhaite que ce soit pertinent. Et d'une manière générale, que toute personne trouve une asso ou un collectif dédié et du soutien dans les différentes existences.
Mais j'aurais pas dit mieux.
À propos d'asso et de collectif, je pense qu'on pourrait peut-être citer les assos qui sont... Enfin, moi, je connais mieux le contexte à l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc, pour les personnes LGBTQ+, on a l'association Wake Up, que vous pouvez solliciter. Pour les personnes trans, ou en tout cas en non-mixité, entre étudiants, étudiantes, non-binaires et ou trans, il y a le collectif Gastu, qui est un collectif nouvellement créé, dont je fais partie. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Insta. Le at, c'est at GastuBM, GASTUBM. Et voilà, donc on fait de la convivialité entre étudiants, étudiantes, trans et non-binaires.
Il me semble que Wake Up, on va les recevoir dans pas longtemps
Super.
Dans Café Campus, il me semble. Faudra revoir ça. En tout cas, de toute façon, chers auditeurs, vous êtes des auditeurs fidèles. Vous ne ratez jamais un magazine, donc ce sera à venir. Morgane et Sarah, merci énormément d'être venus dans Café Campus, à Radio Campus Bordeaux, pour nous parler du genre, des violences qui en découlent malheureusement. On vous souhaite une belle formation et puis encore plein de belles recherches.
Voilà, merci beaucoup.
À très bientôt.
Merci beaucoup.